C'est par où la mémoire? Rappelez-vous une soirée mémorable. Le décor était dingue, la musique démente, la nourriture a tombé, vous avez eu des conversations passionnantes, vous avez ri, vous avez pleuré, vous avez dansé, bref, vous avez vécu votre meilleure vie. Idéal pour un bon souvenir. Soulevons le couvercle de notre boîte crânienne et observons ce qu'il s'est passé là-dedans. Si nos différentes mémoires ne se nichent pas dans la même région cérébrale, toutes ont le même point de départ, nos organes sensoriels. Toute information du monde extérieur pénètre dans notre cerveau via 5 portes, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et la peau. Ces vigies servent la mémoire perceptive fugace. Par exemple, tout ce que vous avez vu ce soir-là a été projeté et conservé sur votre rétine quelques centaines de millisecondes, le temps de sélectionner les informations pertinentes. Ces informations ont ensuite été transformées en messages nerveux et envoyées par le nerf optique dans le thalamus, puis le lobe occipital. Là, chaque info a été dispatchée et analysée dans l'aire du cortex visuel qui lui est dédié. Souvenez-vous, une pour les visages, une autre pour les fruits, etc. Même chose pour les 4 autres sens. La musique et les voix entendues, les plats goûtés, les parfums respirés, la sensation du vent dans vos cheveux ou de la sueur sous vos bras ont généré des stimuli en permanence, filtrés par vos organes sensoriels, puis dispatchés et analysés à différents endroits du cortex sensoriel. Une fois traitées, toutes les infos se sont retrouvées au deuxième point de passage obligé, l'hippocampe. Lui, c'est le physio à l'entrée du club des mémoires. Il décide quelles infos restent, quelles infos disparaissent. Il a 2 adjointes, l'émotion, nichée dans l'amygdale toute proche. Alors ne cherchez pas, hein, c'est sa préférée, rien ne passe sans qu'elle s'en mêle. La seconde adjointe, c'est la raison. Elle siège dans le cortex préfrontal. Et comme c'est une bosseuse, elle prend aussi en charge la mémoire de travail, notre mémoire à court terme. L'hippocampe s'implique particulièrement dans la mémoire épisodique, celle des épisodes de votre vie et dont fait partie cette soirée d'anthologie. Mais il n'a pas la place pour garder toutes les infos, aussi intéressantes soient-elles. Alors l'hippocampe prend leurs numéros et les renvoie chacune à la maison, c'est-à-dire dans leur zone dédiée du cortex sensoriel. Il les rappellera pour la soirée diapo. Le premier qui répond « Ok, boomer, sort ». Voilà donc le souvenir de votre soirée, découpé en morceaux rangés aux 4 coins du cerveau. De son côté, la mémoire sémantique, celle de nos savoirs, est stockée dans les lobes pariétaux et temporaux. La mémoire perceptive durable, celle des Madeleines de Proust, est rangée à proximité des aires sensorielles. Quant à la mémoire procédurale en charge de nos savoir-faire, elle implique le cervelet, les noyaux gris centraux et le cortex moteur.
Les adjointes de l'hippocampe, les émotions et la raison, sont dopées également par des facteurs dont nous reparlerons, l'attention, le repos, le bien-être. Par extension, vous comprenez que le manque de sommeil ou l'anxiété peuvent être les pires ennemis de la mémoire. Ce point sur la mémoire épisodique nous emmène au début des astuces que je vais vous donner régulièrement. Comment utiliser ce savoir médical pour optimiser des choses concrètes et utiles dans notre quotidien? Commençons par apprendre une bonne fois pour toutes à associer un visage et un prénom afin de les retenir et ne plus se sentir désarmé lorsque l'on rencontre une personne que l'on est censé connaître. Astuce 2. Comment retenir les prénoms et les visages? Nous possédons la capacité de retenir les visages, de les reconnaître et de les associer à des données précises, telles qu'un prénom. Retenir un visage est un encodage subtil qui fait travailler tout votre cerveau, car en réalité, rien ne ressemble autant à un visage qu'un autre visage. Et si nous avons tous la même compétence pour nous souvenir des personnes que nous rencontrons, il s'avère qu'individuellement, nous avons souvent le sentiment d'être mauvais à ce jeu-là. Il n'est pas rare, durant mes conférences ou à l'issue de mes spectacles, que l'on me confie « Je ne suis pas très physionomiste ». Ce à quoi je réponds « Vous n'êtes pas non plus prosopagnosique, il me semble ». La prosopagnosie est un trouble de la reconnaissance des visages qui empêche les personnes de différencier les visages. Ils peuvent, par exemple, voir et décrire parfaitement le visage d'une personne familière sans la reconnaître. Évidemment, ce trouble possède différents degrés de puissance qui, dans les cas les plus graves, font que les prosopagnosiques ne se reconnaissent pas eux-mêmes devant un miroir. Je suis personnellement fasciné par ces personnes qui, naturellement et par instinct de survie, développent des stratégies de mémorisation, des subterfuges cognitifs et des détournements d'attention pour reconnaître les autres ou pour embrouiller leurs congénères en leur faisant croire qu'ils savent qui ils sont. C'est passionnant. J'ai pu ainsi parler longuement avec la comédienne Aude Gony-Goubert il y a quelques années, avant de lui conseiller de se faire tester pour ce trouble. Ce qui l'a conduite à se faire diagnostiquer comme telle par un professionnel de santé. J'espère, et j'aime à croire que c'est le cas, que cela a réduit son sentiment de culpabilité lorsqu'elle ne reconnaissait pas un comédien avec qui elle avait joué quelques jours auparavant. Parmi les célébrités atteintes de ce trouble, citons Brad Pitt, Philippe Vandel ou encore Thierry Lhermitte. Et justement, dans le cadre de l'émission Antidote, diffusée en 2021 sur France 2, Michel et moi recevions Thierry Lhermitte. Ayant monté, depuis des années, une méthode simple pour me rappeler facilement des prénoms et des visages, je décide de mettre mes méthodes à l'épreuve sur Thierry Lhermitte. Un prosopagnosique qui, pour vous aider à situer sa gêne, n'a pas réussi à reconnaître sa sœur venue le chercher à l'aéroport. Je lui ai fait mémoriser au début de l'émission 10 visages et prénoms que nous avons mélangés pour lui ressortir en fin d'émission. Pire que ça, j'avais enlevé l'un des visages pour le remplacer par un qu'il n'avait jamais vu dans le test. Lors de la restitution, 50 minutes dans le programme diffusé, mais 2 heures dans la réalité du tournage, figurez-vous qu'il a fait un sans-faute. Mieux encore, quelques semaines plus tard, j'étais l'invité sur France Inter de Philippe Vandel, qui me faisait la confidence publique d'utiliser mes astuces pour lui aussi passer outre ce même trouble. Cette longue et nécessaire introduction pour vous inciter à ne pas sous-estimer la puissance des astuces que je vous donnerai ici et tout au long de l'ouvrage. Ce n'est pas parce qu'elles sont simples qu'elles ne fonctionnent pas. C'est plutôt parce qu'elles ne sont pas utilisées quand on en a besoin. 1. Reprendre le temps. La première étape consiste à faire quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Prendre le temps d'apprendre. Dans notre société, nous trouvons normal d'oublier, de réviser beaucoup, de bachoter, de réapprendre. En dépensant juste un peu de temps au moment de l'encodage d'une information, vous gagnerez du temps à ne pas l'oublier. C'est pourquoi, lorsque vous souhaitez apprendre un prénom, vous devez prendre du temps. Et justement, quelqu'un s'approche de vous, il va vous donner son prénom. 2. Reprendre l'envie. Stimulez votre envie. Dites-vous, intérieurement, « j'ai envie de connaître le prénom de cette personne ». C'est un message fort que vous allez envoyer à votre cerveau. Vous allez arrêter de penser à autre chose, d'anticiper la suite de la conversation, et vous allez réellement prêter votre attention au prénom que vous donne votre interlocuteur. Après vous avoir salué, cette personne vous dit s'appeler Luc. 3. Premier encodage. Vous allez répéter à voix haute son prénom, tout de suite, pour l'ancrer. Ne le faites pas sans prétexte. Vous paraîtriez étrange. Préférez un classique. Enchanté, Luc. En prononçant son prénom, vous allez créer une boucle phonologique qui va maintenir plus longtemps son prénom dans votre mémoire de travail. 4. Reprendre de l'imaginaire et des émotions. Mais vous voulez maintenant transférer cette information dans une mémoire à plus long terme. Nous allons pour cela utiliser le ciment que sont les émotions et les capacités d'association du cerveau. Cette étape consiste à imaginer la personne que vous voyez dans une situation amusante, marrante, marquante ou incongrue liée à son prénom. Vous pourriez imaginer la personne devant vous en train de se battre avec un sabre laser, comme Luke Skywalker, ou en train de tirer avec un Colt plus vite que son ombre, Lucky Luke, etc. Tous les moyens sont bons à partir du moment où c'est spontané et marquant pour vous. Vous devez vraiment prendre 1 à 2 secondes pour imaginer la scène. En imaginant votre image, vous fabriquez un souvenir imaginaire qui va être traité en partie par la mémoire épisodique, comme un souvenir réel. 5. Deuxième encodage. Vous pouvez maintenant renforcer ces données en subvocalisant, c'est-à-dire en parlant dans votre tête avec votre petite voix intérieure, des éléments marquants de la personne. Justement, notre Luc a de grosses poches sous les yeux qui lui donnent un air fatigué. Et son visage vous rappelle votre ami Pierre. Imaginez maintenant rapidement ce Luc en Luke Skywalker fatigué combattant votre ami Pierre. Au-delà d'avoir optimisé l'utilisation de vos mémoires, vous venez de consacrer du temps, de la pleine conscience et donc de l'attention à ce visage et ce prénom. 6. Reprendre la répétition de l'information. Vous pouvez dire son prénom à chaque fois que cela est possible. Le système de répétition présente des bénéfices pour ancrer durablement l'information dans votre mémoire et renforce ses liens associatifs. Si vous souhaitez demander à la personne « Et que faites-vous dans la vie ?» dites plutôt « Que faites-vous dans la vie, Luc ?» En plus d'aider votre mémoire, sachez qu'il est toujours valorisant pour une personne de constater qu'on lui prête de l'attention en prononçant son prénom. Je peux vous assurer qu'il ne faut que quelques secondes pour faire ces 6 étapes. Elles s'enchaînent spontanément et ont le bénéfice direct de vous permettre de mémoriser durablement un visage et le prénom qui y est associé. Si Thierry Lhermitte a réussi à le faire sur 10 personnes, vous devriez réussir vous aussi.
Merci Fabien. Je crois bien que tu viens de sauver ma vie sociale. Je ne souffre pas de prosopagnosie, je reconnais les visages, mais impossible de recoller les noms qui vont avec. Autant te dire que c'est une source de nombreux embarras au quotidien. Alors j'ai moi aussi développé des subterfuges. Pendant longtemps, j'ai fait de ma femme ma complice. Quand nous croisions quelqu'un que je connaissais et dont fatalement j'avais oublié le nom, je la présentais en premier. « Ah, bonjour, je te présente ma femme Bernadette. » Pour des raisons évidentes de confidentialité, tous les prénoms ont été changés dans cette scène. Cela invite l'autre à se présenter naturellement à elle. « Bonjour Bernadette, Hippocrate, enchanté. » C'est le seul nom que j'ai toujours retenu. Sauf qu'un jour, nous faisions la queue au restaurant et j'aperçois une femme que je connais bien. Vraiment, je la reconnais tout de suite, mais d'où ? Connaissance amicale ou professionnelle ? Et de quel milieu ? Télé, presse, radio, fiction ou ancienne collègue de l'hôpital ? Mystère. Bref, au bout d'un moment, je me retrouve nez à nez avec elle, mais sans ma femme, rester dans la file. Dans ces cas-là, je passe au plan B, gagner du temps. Je l'embrasse chaleureusement, je la tutoie, je blague, je me moque de la façon dont son mari est habillé. Bref, je louvoie en attendant un indice salvateur. Au bout de 3 minutes, toujours rien. J'applique donc le plan C, fuir dignement. J'annonce que je vais rejoindre ma femme et là, douche froide, cette personne me répond « Il faudra que je revienne vous voir, docteur, parce que j'ai encore mal aux oreilles. » Horreur, je viens de tutoyer, d'embrasser et de me moquer du mari, d'une patiente. Revenons maintenant à votre soirée. Grâce à Fabien, vous avez retenu le prénom des personnes présentes. Vous voyez de quoi je parle. La soirée mémorable dont je vous parlais au début de cette partie, avant que Fabien ne détourne votre attention. Concrètement, cette soirée a laissé une trace physique dans votre cerveau. En l'occurrence, il s'agit d'une trace mnésique. Alors mnésique signifie de la mémoire. Imaginez une toile d'araignée. Les fils de la toile seraient des neurones accrochés aux différentes régions cérébrales impliquées. Aire du cortex sensoriel, amygdale, cortex préfrontal. Au centre trônerait l'animal totem de cette toile du souvenir, le héros de ce réseau, l'hippocampe. Gardez cette image en tête et commençons par zoomer sur les neurones. La toile du souvenir. Les neurones des fils électriques. Au dernier recensement, ils étaient 86 milliards. À titre de comparaison, nous sommes à ce jour 8 milliards d'humains sur Terre, plus quelques-uns dans l'espace. Dans chacun de nos cerveaux, il y a donc 10 fois plus de neurones que de terriens. Faites ce que vous voulez de cette information. Un neurone est une cellule de forme particulière. Du corps cellulaire, où se trouve le noyau, partent 2 types de prolongements. Les premiers sont courts et arborescents, les dendrites. Elles reçoivent les messages qui arrivent d'autres neurones. Les seconds prolongements sont très longs, les axones. Ils se finissent aussi par une arborescence, les boutons synaptiques. C'est par là que partent les messages vers les autres neurones. L'axone ressemble à un fil électrique. D'ailleurs, il propage le message nerveux qui n'est autre qu'un signal. électrique. Ce signal, ou plutôt ces signaux, vu le nombre de neurones, sont mesurables à l'aide d'un électroencéphalogramme et donnent une idée de l'activité de notre cerveau. Continuons l'analogie. Un neurone a deux états électriques possibles, au repos ou activé, 0 ou 1, comme un système informatique binaire. Et comme tout câble, il doit être entouré d'une gaine isolante pour assurer une bonne conduction. Il s'agit d'une gaine de myéline, blanche et principalement constituée de lipides, d'où la quantité de gras dans le cerveau, une grosse moitié de la masse sèche, comme on l'a vu précédemment. Un aparté pour souligner l'importance des autres cellules du cerveau, trop souvent ignorées, les cellules gliales. Elles sont au moins aussi nombreuses que les neurones. Elles produisent la gaine de myéline, fournissent les neurones en oxygène et nourriture, puis éliminent leurs déchets. Elles participent aussi activement au développement de notre cerveau, à la transmission des informations et sont impliquées dans certaines maladies. Fin de l'aparté. Tordons maintenant le cou à une idée reçue très tenace. T'es vraiment mono-neurone. Ou plus clément, t'as de neurones ? Voilà les expressions types de la bêtise. Plus on a de neurones, plus on serait intelligent. Breaking news, ce n'est pas tout à fait ça. Bon, déjà, on a tous nos neurones dès la naissance, et contrairement à ce que l'on croit, on n'en perd pas tant que ça en vieillissant. Nous gardons quasiment les mêmes neurones tout au long de notre vie, contrairement aux autres cellules de notre corps qui se renouvellent régulièrement. Le phénoménal pouvoir de notre cerveau, et donc de notre mémoire, ne réside pas tant dans le nombre de nos neurones que dans la manière dont ils se branchent et se débranchent entre eux. Ces connexions ont un nom, les synapses. Si les axones sont des fils électriques, les synapses sont des méga-giga-multiprises à géométrie variable.